C'est Renault, Renault, Renault qui fait marcher les machines. C'est Renault, Renault, Renault qui fait marcher les autos.
On va retourner chez les ouvriers, c'est-à-dire les oubliés. Les ouvriers, les oubliés, c'était une suite de reportages de Thierry Scharf. En deuxième diffusion, on revient à Sandouville, c'est-à-dire chez Renault, où 500 intérimaires viennent d'être virés. Alors des intérimaires, ben c'est normal, ça fait partie du contrat, contrat qui n'est pas renouvelé. C'est ce qui nous avait intéressé évidemment sur la précarité, sur la fragilité de l'emploi aujourd'hui et du travail aujourd'hui et de cette condition ouvrière des ouvriers et des oubliés.
Salut Daniel, je voulais donner des nouvelles de mes voitures aux ouvriers oubliés. Donc aux ouvriers de la deuxième chaîne de montage de Flins, je voulais leur dire que ma RCS Super immatriculée le 8 novembre 66 se porte bien. Elle a passé les 300 000 km le 5 mars dernier. Aux ouvriers de Le Havre-Sandouville, ma R16L de 1972 se porte bien aussi et doit avoir 93 000 km. Si j'ai pu l'usine d'où sont sorties mes voitures, c'est que une lettre peinte au pochoir dans le compartiment moteur indique l'usine et le numéro de la chaîne de montage. Alors ce serait intéressant de savoir si c'est indiqué sur les voitures qui sortent aujourd'hui. Voilà, salut, Damien.
Llueve de noviembre, malos tiempos me recuerdas, que ganaron las derechas al partirse las izquierdas. Los obreros no se rinden y se lanzan a la huelga, pues no hay nada que perder sino las mismas cadenas. En Gijón y en Barcelona y en Granada y en Valencia y en otros muchos lugares la huelga surge y progresa. Pero el viento del poder recorre pueblos y aldeas, arrastrando a los huelguistas hasta el fondo de las celdas. Los rebeldes anarquistas en la cárcel no se arredran y proclaman la unidad con el resto de las fuerzas. Lucharemos codo a codo sin ponernos etiquetas. Los mismos amos tenemos, la misma cárcel nos cierra.
C'est Renault, Renault, Renault qui fait marcher les machines. C'est Renault, Renault, Renault qui fait marcher les autos. Renault, Renault qui fait marcher les machines. Renault, Renault qui fait marcher les autos.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf. Là-bas, si j'y suis, les ouvriers, les oubliés.
Flight number 2, arriving from New York.
Bon, on s'est battu, on a obtenu des acquis. Et puis, au fil des années, maintenant, bon, bah, tu vois, t'es arrivé tout de suite avec 30 années d'ancienneté. Même si on est privatisé, Renault, c'est la France, c'est quelque chose d'immense.
Pour moi, l'intérimaire, c'est on sert des gens, une fois qu'on en a plus besoin, on les jette, quoi, c'est tout. La dernière fois que je suis partie en vacances, c'était avec mes parents, donc ça date, quoi. J'habitais encore chez eux.
Tout le temps, ils nous disent en plus, t'es pas content, hein? Eh bien, bah regarde, il y en a 6000 qui attendent dehors. Tu sais, la porte, elle est grande ouverte comme ça.
Nous, on n'est pas des sauvages. On a envie de travailler, qu'ils nous donnent du travail, on travaille, c'est juste ça. Mais le fait de travailler et puis de virer les gens comme ça, Franchement, ça n'a pas de sens. C'est l'esclavage moderne. Leur façon de parler, ils nous appellent des intermerdes. Donc pourquoi pas eux, si vos enfants ont été embauchés, si les jeunes blancs ont été embauchés, pourquoi pas nous, on devrait être embauchés, pourquoi pas? Liberté, égalité, fraternité. Je crois que c'est ça. Donc il faut respecter ça, quand on dit quelque chose, il faut le respecter. Ils sont venus pour travailler manuel. C'est avec leur force, d'accord. Mais nous, attends, nous, on a appris, on a fait l'école comme leurs enfants. Comme vos enfants.
Mon papa, c'est le plus gentil du monde. Le matin, c'est lui qui m'amène à l'école. Avec sa Renault 25, elle est belle. On se croirait dans un carrosse. Papa, c'est le cocher. Et moi, je suis Cendrillon. Plus vite cocher, moins vite cocher. Montez la glace. Papa, il peut faire tout ça sans bouger ses mains du volant. Faut être fort pour faire ça.
Renault, des voitures à vivre.
Chaplin revient, ils sont devenus fous. Charlot revient, ils sont devenus flous. Charlot, vous vous souvenez? Les temps modernes, c'était le taylorisme. On est passé du taylorisme au toyotisme et ils sont devenus flous. Ils sont sortis des écrans, silence radio, la classe ouvrière a disparu. Et c'est à la recherche de cette classe ouvrière disparue que nous sommes allés donc à Sandouville, près du Havre, dans l'usine Renault. On aurait pu aller chez Peugeot ou ailleurs, c'est pas spécialement Renault qui est visé. Christian, qu'on entend dès là à l'instant, l'ouvrier de Renault, la fierté Renault, l'avant-garde Renault, l'avant-garde sociale, l'avant-garde technologique, qui disait hier, on avait obtenu des acquis, entre cette phrase-là et celle qu'on va entendre aujourd'hui de ces enfants, de ces jeunes d'origine africaine qui va dire « on est des intermerdes », eh bien, des années ont passé et c'est l'histoire de notre époque, c'est l'histoire d'une génération presque de travailleurs, d'ouvriers, de salariés, des mots qui sont un petit peu démodés puisque maintenant, on nous l'a dit et redit hier, on est devenu dans ces entreprises, dans ce type d'entreprise, des opérateurs. La guerre sociale, comme toute guerre, est une guerre des mots. Mais un auditeur le disait à l'instant, démobiliser la révolte, pousser les opérateurs à se diviser, à s'auto-contrôler, les pousser à participer à leur propre aliénation. Voilà des choses qu'on entendait, qu'on entend depuis longtemps, qu'on entendait au 19e siècle, tout au cours du siècle dernier, notre 20e siècle. Et puis soudain, disparu. Aujourd'hui, la classe ouvrière a disparu, non seulement des préoccupations de nos chers intellectuels, mais également du paysage médiatique, du paysage poétique, du paysage social. Et c'est un phénomène extraordinaire si on songe que selon différents modes de calcul, cette classe ouvrière, ces ouvriers seraient de 6 à 7 millions aujourd'hui en France. Et je m'avançais un peu hardiment hier à extrapoler en disant que si on met autour de chacun de ces ouvriers une petite famille, ça fait environ 20 millions de personnes qui aujourd'hui appartiennent à ce monde ouvrier chez nous en France. Des Français blancs, bien français de France, mais aussi des gens d'origine, comme on dit poliment maghrébine, ou d'origine immigrée. Et oui, il y a toujours une division à l'intérieur du monde du travail. C'est une vieille, vieille histoire entre l'ouvrier agricole, par exemple, et le journalier. Jadis, c'était entre les ouvriers en poste et les immigrés qui arrivaient. Évidemment que depuis toujours, la loi terrible du profit veut évidemment un personnel et une main d'œuvre docile. Et pour ça, la meilleure ficelle, la meilleure combine, la plus vieille, c'est de diviser pour régner. Aujourd'hui, ça continue du taylorisme au toyotisme. La classe ouvrière a disparu,
Les ouvriers, les oubliés, jusqu'à 18h sur Inter.
Et alors, mademoiselle, vous voyez pas que vous faites du sang à l'heure avec votre Renault, là?
Nous accusons Chirac d'avoir saboté la production de la régie nationale des usines Renault.
Mon papa, c'est le plus gentil du monde. Le matin, c'est lui qui m'amène à l'école. Avec sa Renault 25.
Renault, la vitrine sociale des années 50, 60, 70, a complètement tourné le dos au progrès social.
Moi, vite cocher.
Rappelez-vous, camarades, dès l'annonce de la fermeture de l'usine de Villeborde, l'action Renault a fait un bond de 13% à la bourse. Le drame est que ceux qui nous dirigent considèrent le travail comme un coût et la bourse comme moyen de revenu.
Renault Occasion, un goût certain pour la perfection.
Bon, on s'est battu, on a obtenu des acquis. Et puis, il y a fil des années, maintenant, bon, bah, tu vois, t'es arrivé tout de suite avec 30 années d'ancienneté.
La maison travaille chez Renault, mes parents travaillent chez Renault, donc c'est... ça a été Renault. Pour moi, l'intérimaire, c'est on sert des gens, une fois qu'on en a plus besoin, on les jette, quoi, c'est tout.
De Christian à Delphine, il y a l'espace d'une génération. Christian pourrait être le père de Delphine. Pourtant, Delphine, qu'on vient d'entendre, c'est une descendante de Renault, d'ouvriers de chez Renault. Sauf que maintenant, elle est intérimaire. Sauf que maintenant, elle est devenue une variable d'ajustement. Sauf qu'elle est devenue du Kleenex. Quand les aléas du marché l'exigent, eh bien, on a cette... Ces variables d'ajustement qui sont les intérimaires et qu'on fout dehors. Quand c'est pas carrément une partie du personnel, on sait qu'on a devant nous, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, une série de plans sociaux, encore un euphémisme, qui va sans doute agiter le paysage social, encore un autre euphémisme, français. Comment on en est passé qu'est-ce que c'est que cette évolution, cette histoire qu'on n'a pas très bien saisie, et pourtant on est dedans, on est dans le potage, c'est peut-être parce qu'on a trop le nez sur le guidon. En tout cas, on revient sur cette histoire sociale qui est à peine derrière nous et que nous vivons, dans laquelle nous sommes, avec deux sociologues, Stéphane Beau et Michel Pialoux, les auteurs de Retour sur la condition ouvrière. Je disais que ça se passe là, en l'occurrence chez Renault, mais ça pourrait être chez Peugeot, puisque leur travail à eux, leur travail de sociologue s'est déroulé, continue d'ailleurs de se dérouler à l'usine Peugeot de Montbéliard, la plus grande usine de France, usine automobile. Alors comment en est-on passé de cette génération de la fierté ouvrière à celle des intérimaires, Beau et Pialoux?
Cette génération des gens, des enfants, quoi, des jeunes nés après 1970, c'est une génération sacrifiée qui paye plein pouce, si on peut dire, le problème du marché du travail, le problème du logement, etc. Donc, pour cette génération-là, et c'est important aussi de voir, notamment, si on veut dire en termes de rapport entre générations, qu'elle a beaucoup de mal à s'installer véritablement et que, psychologiquement, ça crée des ravages. C'est très difficile de supporter cette attente permanente, de toujours comme ça sur un pied, de ne pas savoir si on va pouvoir réussir, d'être soumis à ces fameux tests qui évaluent quoi, on ne sait pas trop.
Tests d'embauche, oui.
D'embauche, parce que d'une certaine manière, en général, sur les chaînes ou sur leur poste de travail, ces personnes, si on reconduit les missions, c'est qu'elles donnent satisfaction. Et les agences d'intérim ont des grilles d'évaluation et les jeunes qu'on reprend, en général, c'est parce qu'ils ont donné satisfaction. Donc, quelle est la rationalité de tout ça pour ces jeunes? Ça apparaît aberrant et c'est très fortement source de grande frustration et voire même de colère. Alors effectivement, le problème c'est
une colère qui n'arrive pas à s'exprimer.
C'est difficile parce qu'il y a toujours. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'exprimer? Parce qu'il y a
collectivement.
Ce secret espoir, oui. Individuellement, il y a toujours l'espoir qu'on va s'en sortir un jour, que pour l'instant ça marche pas parce qu'il y a eu telle chose, j'étais malade 15 jours, et ça, cet espoir individuel, il est différent de quoi. Il va contre l'espoir collectif d'une bataille syndicale, par exemple.
Chacun sa merde, chacun pour soi, faut pas compter sur les autres, fin de la solidarité, ou du moins la solidarité salariale, ouvrière, mal en point évidemment aujourd'hui. C'est un effet, cet effet a-t-il été voulu? Pour montrer qu'il a été voulu, il faudrait vraiment travailler sur le fond idéologique des choses, et alors là, où va-t-on? On finirait par faire de la politique, ce qui est absolument démodé aujourd'hui.
aujourd'hui. On est à l'usine Renault de Sandouville, près du Havre. 6300 salariés dans cette entreprise et il y a 1700 intérimaires au total dans cette entreprise. Et récemment, pour des raisons qu'on n'a d'ailleurs pas à donner, que les directions n'ont pas à donner, 900 de ces intérimaires n'ont pas été renouvelés. Alors évidemment, ça fait drôle, et ça a fait drôle à Jamel qui a 23 ans.
Depuis combien de temps tu travaillais en intérim chez Renault?
Ça fait un an et demi.
T'as quel âge?
Là, j'ai 23 ans.
Et c'était ton premier emploi?
Mon premier, ouais, c'est mon premier, tout premier.
T'es parti de l'école à quel âge?
19-20 ans. Ouais. Ça fait un an, j'ai galéré.
Qu'est-ce que tu faisais comme boulot?
On va dire, je faisais tous les postes parce que là, vraiment, ils me prenaient pour un chien. Parce que jamais je restais à ma place. Jamais. Tout le temps, je bougeais. Et les autres, ils bougeaient pas. Il y avait moi qui bougeais. Et moi, j'en avais marre. Puis un jour, je lui ai dit, ouais, j'ai envie de rester à ma place et tout. Il m'a dit non.
Ton chef?
Ouais, mon chef. Il m'a dit, tiens, tu vas aller aux colonnes. Ça fait que j'en ai subi aux colonnes. Après, ils m'ont mis aux platines. Puis ils voyaient que je réussissais pas, donc ils m'ont changé de poste. Puis après, ils m'ont encore mis aux platines. Et j'avais l'impression qu'ils jouaient avec moi.
Ça, c'est des boulots durs.
Ouais, c'est clair. Ouais. Les colonnes platines, ouais, c'est les plus durs.
C'est quoi les colonnes platines?
Les colonnes, c'est les colonnes de direction. Les platines, c'est quand je suis au bout de chaîne, je dois mettre une peau, ensuite je dois mettre, le master bike, je dois mettre plein de choses.
T'es en colère aujourd'hui d'avoir été remercié comme ça?
Oui, parce qu'ils m'ont promis une promesse d'embauche. Parce qu'ils m'ont dit au bout de... On va voir si tu connais pratiquement tous les postes. Et on verra bien. Tu nous donnes un CV, une lettre de motivation. Moi, j'ai fait d'accord, ok, y a pas de problème. Puis là, en fin de compte, j'ai attendu pour rien puisqu'ils m'ont dégagé. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, un an et demi, si t'es que tu les dépasses, c'est bon, on va t'embaucher. Mais c'est que des conneries. Hein. Moi, j'ai travaillé dur comme un chien pour rien du tout. J'ai appris tous les postes, mais ils ont joué avec moi, ça fait que maintenant, je suis écœuré. Ouais, je suis écœuré.
Toi, t'étais content de rentrer chez Renault, même avec l'intérim?
Moi, j'étais archi content, moi, parce que c'est la première fois que je travaille de ma vie. C'est la première fois. Mais en fin de compte, là, je suis dégoûté, hein. Je suis dégoûté de Renault. C'est clair, hein.
Mais enfin, Jamel. C'est pas Zola, quand même. C'est pas cela, mais quand même, dans la France du 21e siècle, deux personnes meurent chaque jour des suites d'un accident du travail. Les maladies professionnelles reconnues et largement sous-estimées, elles ont triplé en 8 ans, atteignant 125 000 cas en 1999. Voilà des indications qui montrent que la pénibilité au travail a changé. Sans doute que le corps, les muscles sont moins sollicités, mais c'est pour solliciter beaucoup plus l'engagement. On nous en a parlé, l'engagement psychologique beaucoup plus important, si bien que les expressions ont changé. On parle de stresser, on parle de péter les plombs. On est dans la consommation excessive, très importante, de calmants, etc. Bref, la souffrance au travail a changé, mais ne s'est nullement réduite.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, travailler à la chaîne, entre les conditions de précarité et d'intensification du travail, c'est pire qu'avant?
Ce qui change peut-être le plus, c'est justement l'ambiance, les relations sociales au travail. Les difficultés, il y a peut-être, peut-être au niveau d'intensification du travail, là, il y a un accord pour dire que c'est... En tout cas, dans certaines entreprises, c'est de plus en plus dur parce que les rythmes de chaîne sont plus importants. Les maladies, par exemple, professionnelles apparaissent plus vite. Et les médecins du travail tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Il y a de plus en plus l'apparition, par exemple, de maladies professionnelles de plus en plus tôt dans une carrière ouvrière. Ce qui fait que l'idée, c'est qu'on use de plus en plus vite, notamment les jeunes au travail. Donc ça, c'est un critère pour dire, là, il y a vraiment une dégradation objective.
Le monde est trop petit. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? J'ai plus d'appétit. Qu'est-ce qu'on est con? Quand on est con, on est. On est content. Tant qu'on est content, on est. Alors on se gratouille. On se tripatouille. On se fout du car, car, car. on est des fainards.
Ouais.
Pardon, j'en prends au couplet d'avant.
Qu'est-ce qu'on se fait chier?
Ouais.
Et les autres aussi.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on s'emmerde?
Et qu'est-ce qu'on se fait chier?
C'est déjà ça de prix.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on est con?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on?
Ouais.
On est vivant.
Ouais.
Tant qu'on est vivant, on est.
Ouais, ouais.
Alors on se bougonne.
Ouais.
Dans nos saxophones.
Ouais.
J'ai eu un problème de santé. Ça fait que je suis atterri à l'hôpital. Pourquoi? Parce que au niveau de l'alimentation, je mangeais mal. Parce que nous, à Renault, on n'avait pas trop le temps de manger. Et puis, ça fait que dès que la chaîne a reprenait, fallait qu'on se dépêche. Ça fait qu'on mangeait rien du tout, quoi. Puis moi, arrivé chez moi, quand je rentrais chez moi le matin, je mangeais grave. Et puis le matin, quand je me réveillais, ça fait que j'étais un peu éclaté, quoi. Et puis je reprenais le travail, j'étais fatigué, pareil. Et puis j'ai eu que des problèmes de santé au niveau de la fatigue, de l'alimentation, problèmes de digestion.
Et ça c'est vraiment lié à la chaîne.
Ouais, ça c'est lié à la chaîne. Franchement, moi c'est lié à la chaîne là. Ma mère me dit qu'est-ce que tu fais à ce temps-là, t'es pas encore couché. Non, j'arrive pas à dormir et tout. Faut que je me couche sur les coups de 4h du matin.
Et c'était quoi tes horaires?
J'ai commencé du matin, c'était 5h jusqu'à 3h, 3h 4h.
Tu te levais à quelle heure là? Tu te réveillais à quelle heure?
J'arrivais pas à dormir, je dormais pas.
Tu enchaînais, tu dormais plus?
Je dormais plus, j'enchaînais direct. Puis à force, j'étais tellement fatigué que là, je suis tombé. Et j'ai dormi direct. Ça fait, moi, quand je revenais à 3h, je dormais aussitôt. Je me réveillais à minuit. Puis là, j'avais la pêche. Et là, je dormais pas. Ensuite, je repartais à 4h30. Puis j'avais des nausées en plus quand j'étais à Renault. J'avais des nausées sur la chaîne. Je me sentais pas bien. Quand on leur disait, ouais, est-ce que tu peux me ramener un médicament, un truc comme ça, ils me disaient, mais non, t'inquiète, ça va aller mieux et tout. En fin de compte, ça allait mal. Moi, je suis parti directement à l'infirmerie. Moi, je leur demandais pas. Moi, je suis parti directement après les pauses. Ils me voyaient pas. Après, ils me disaient, qu'est-ce que t'as et tout. Ça fait, moi, si tu veux savoir, tu vas voir le délégué, il va te le dire. Parce que moi, je leur disais rien. Parce que ils ont voulu faire les cons avec moi. Moi, j'ai fait pourquoi pas, je ferais pas le con avec eux s'ils me prennent pour un con. C'est pareil. Moi, je parlais qu'avec les intérimaires, c'est tout. Je parlais pas avec eux. Mais quand lui, il vient nous voir, le chef, il nous dit, ouais, ça va, on est obligé de lui dire ça va. Parce que sinon, il va nous traiter. Il nous dit, ouais, non, machin, ça va pas. Tu sais quoi? Tout le temps, il nous dit, en plus, t'es pas content, hein? Regarde, il y en a 6000 qui attendent dehors. Tu sais, la porte, elle est grande ouverte comme ça.
Disais ça. Marocain, il y a 6000 personnes dehors.
Il y a 6000 personnes dehors qui attendent.
Avant, on pourrait dire, pour caricaturer, vous voyez, il avait besoin avant tout d'une bonne caisse à outils et puis se présenter, faire ses preuves. Là, il faut un CV et puis on s'aperçoit que toute cette présentation de soi à travers ses CV, ben, ça devient rien quand on est comme ça jeté au bout de 6 mois parce que l'entreprise a décidé de diminuer son stock d'intérimaires pour s'ajuster au plus près à la production. Donc, il nous semble, en tant que sociologue, il faut à la fois analyser et dénoncer ce coût social, quoi, de cet hyper-ajustement à la conjoncture économique, parce que ça provoque notre réflexion commune en ce moment, Michel et moi, c'est de réfléchir à une émeute urbaine qui a eu lieu à Montbéliard il y a 2 ans, et on ne cesse de parler de ces problèmes de quartier. Sarkozy ne cesse de vanter les petites répressions, mais bien évidemment, toutes ces questions-là de sécurité, on les pose jamais en référence à ce qui les nourrit sans cesse, cette insécurité économique et sociale croissante, qui ne cesse effectivement d'alimenter les peurs, les frustrations et les conflits entre générations. Donc, je dirais qu'en tant que sociologue, il faut remettre les priorités là où elles sont. C'est-à-dire que c'est d'abord en analysant avec précision ce qui se passe dans l'insécurité, la précarisation sociale, qu'on pourra comprendre et peser peut-être un jour sur ces problèmes dits d'incivilité dans les quartiers, parce qu'on voit très bien que dans les quartiers, des jeunes qui sont mis au travail de façon normale, entre guillemets, on voit qu'ils acquièrent progressivement des habitudes, ils se lèvent le matin, ils ont leur voiture, etc. Et pendant quelques temps, la reprise économique, c'est vrai que ça a pu relativement apaiser certains quartiers, parce qu'il y a quand même... Mais quand après... 6 mois après la reprise, un tas de jeunes, notamment parce que là aussi il y a une suspicion, beaucoup d'enfants d'immigrés n'ont pas été repris. Alors est-ce que parce que ils sont pas des bons travailleurs ou parce qu'ils sont des enfants d'immigrés? Bon, à ce moment-là, ça attise bien sûr un tas de oui, ça attise les choses, ça rend plus compliqué les choses dans les quartiers. Donc il faut cesser de penser ces histoires de cité de quartier indépendamment de ce qui se passe dans les usines, dans ces fameuses entreprises où la précarisation joue à plein.
Voilà, il faut remonter aux raisons de l'insécurité. Si insécurité il y a, eh ben, il y a des raisons à l'insécurité. S'il n'y a pas de raison à l'insécurité, alors c'est qu'ils sont comme ça. Et alors ça, quand on dit ils sont comme ça, eh ben, on n'est pas très très loin d'une forme d'exclusion qui ressemblerait peut-être à du racisme. Non, il faut rechercher les causes, parce que c'est sur les cause que l'on peut agir. Le coût social de cette insécurité dans le travail est évidemment considérable. Voilà pourquoi on est avec Jamel. Alors, Jamel, oui, il s'appelle Jamel. Alors, Jamel, la discrimination raciale à l'embauche, est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe pas? Eh ben, ça existe. C'est un sujet que vous voyez dans les pages un peu emmerdantes de votre journal économique, machin, société, etc. Or, cette discrimination raciale au faciès à l'embauche existe bel et bien. Elle permet cette division nécessaire au règne de quoi donc? Du bravo profit.
La plupart des embauchés, franchement, ils faisaient n'importe quoi, tu vois. Et puis quand c'était nous, on faisait une connerie, on se faisait traiter. Mais quand c'était eux, c'est fait, oh, c'est pas grave, non, machin. Parce que moi, j'avais mes méthodes à moi pour travailler, puis je travaillais plus vite qu'eux. Et puis ça fait que eux me disaient, mais non, c'est comme ça qu'il faut faire, Je fais, écoute, moi j'ai ma façon, t'as ta façon. Avant, tu faisais des Renault 5, d'accord, je te comprends. Mais maintenant, moi, c'est les nouvelles voitures, et maintenant, moi, j'ai ma façon, je travaille ma façon, je travaille plus vite, c'est pas ma faute.
Ouais, mais en même temps, comme tu travailles plus vite que les embauchés, pour eux, c'est pas évident, tu casses leur rythme, là.
Eux, ouais, d'accord, je casse leur rythme. Mais c'est pas de ma faute, parce que moi, je travaille comme ça, je peux rien dire. Et ça fait que quand eux, ils étaient pas là, qui c'est qu'il fallait appeler? Un intérimaire. Pourquoi? Parce qu'il connaît son poste. Et ça fait que je remplaçais la personne. Puis eux, ils attendaient quand l'embauché revenait, ils mettaient dans un autre poste. Et ça fait franchement, le chef d'atelier, il est archi sympa avec nous.
Aujourd'hui, tout le monde peut bénéficier de l'expertise du réseau Renault Occasion. Quant aux véhicules qui ne répondent pas aux exigences de Renault Occasion, Renault Occasion, un goût certain pour la perfection.
À chaque étape importante de votre vie, il y avait quelqu'un à vos côtés. Avec Adecco, numéro 1 du travail temporaire, 225 000 jeunes de moins de 25 ans ont trouvé du travail. Ça ne change pas le monde, mais ça y contribue.
Ça ne change pas le monde, mais ça y contribue. Qui résiste à une pub aussi séduisante? Ça ne change pas le monde, mais ça y contribue. Le peu qu'on fait, peu, vous savez, eh bien, on le fait, ce peu qu'on peut. Pub pour l'intérim, c'était l'avenir, l'intérim, c'était formidable, c'était le nomadisme, c'était je ne reste pas toujours à la même place, je ne suis pas un fonctionnaire, je ne suis pas une pièce du rouage, non, 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 je suis libre, je fais ce que je veux, quand je veux, ici et maintenant, et puis, ben voilà, les années ont passé et voilà, l'intérim, et ben c'est par exemple c'est quelqu'un comme Jamel, et c'est quelqu'un qui éprouve une certaine difficulté à s'intégrer au monde du travail, comme on dit dans les vraies émissions professionnelles de radio et de télévision, et qui éprouve une certaine difficulté aussi sur le plan de la discrimination raciale à l'embauche.
Quand ça s'est passé lors des élections, là, quand ils ont dit bah ça va être Le Pen, il y avait des rumeurs que c'était lui qui allait gagner, mais en fin de compte, c'est Jacques
Chirac.
Pendant la campagne présidentielle. Et puis, ça fait que moi, j'étais à Renault, le soir même, je suis rentré et tout, pour aller travailler et tout. Puis là, je vois un carré se passer, et puis sur sa pancarte, c'est marqué « Vive Le Pen ».
Dans l'usine.
C'était marqué au stylo « Vive Le Pen ». Ben moi, qu'est-ce que j'en ai pensé dans ma tête? J'étais énervé d'un côté. Du style, lui, il disait « Ouais, c'est lui, il va gagner, tu vas voir, nanana, machin ». Et devant tout le monde, quoi. Mais la plupart des intermédiaires sur ma chaîne, c'est que des immigrés, quoi. Et ça fait que, bah, nous, on était énervés, quoi. Mais on peut rien faire du tout. Le chef, il l'a vu, mais le chef, il dit rien. Moi, ça m'a choqué de voir ça. Ça se fait pas de faire ça. Un embauché qui fait ça. Mais après, s'il voit qu'à la fin, y a un mec qui l'a repéré et il se fait démonter, qu'est-ce qui va se passer? Après, ils vont dire que c'est les intermédiaires, qui cherchent et tout, qui font des connards et tout, et pourquoi on les prendrait pour les embaucher? Mais, moi, de toute façon, ça m'écœure. Moi, j'ai jamais pu en parler, déjà. Dès que j'ai vu ça, déjà, ça m'écœure. Même quand j'étais avec l'école, en stage, à Champion, bah, c'était pareil. La plupart des embauchés qui sont là-bas, c'est des racistes. Et ça se fait pas. Pourquoi ils profitent sur nous? Pour eux, ce qui est bizarre, c'est quand une personne fait la prière, ça les étonne. C'est ça qui est écœurant. Ça les étonne.
Parce que tu faisais la prière dans l'usine?
La prière à Renault avec un collègue à moi. Et puis, ça fait, nous on la faisait et tout, et puis, ça fait que les gens, ils nous disent, ouais, alors pourquoi vous faites la prière et tout, alors nous, nanana, et tout, c'est pas bien, c'est pas, une mosquée, mais voilà, quoi, nous on a nos religions, c'est, eux ils ont leur religion, nous, est-ce qu'on dit, ouais, tatata, machin, est-ce qu'il y a ça, nous on s'occupe pas de leur vie, mais ils s'occupent pas de notre vie, pareil, c'est voilà, il y a du respect, quoi, mais eux, s'ils nous respectent pas, c'est même pas la peine, hein. Nous, on faisait la prière, on se prenait pas la tête, hein. Ils sont pas contents. Ils vont me dégager parce que moi, je fais la prière. Mais c'est n'importe quoi, ça. Comment ils réagissent, les gens, là, c'est pas bien. Franchement, ils m'ont tellement écœuré que je leur parlais même plus. Je les calculais même pas.
Renault, des voitures à vivre.
Principalement, il faut dire que les enfants d'immigrés, c'est une grande fraction des enfants d'ouvriers, quoi. Donc c'est normal qu'ils soient à l'usine ou en intérim. C'est un fait démographique. Le vivier, si l'on peut dire, de réserve de main d'œuvre dans la classe ouvrière, elle est essentiellement dans les cités, dans ces enfants d'ouvriers. Alors,
Stéphane Beau.
D'ouvriers, enfants d'immigrés. La question, c'est est-ce qu'elle existe, cette discrimination? Alors, pendant un temps, il y avait déjà, ne serait-ce que beaucoup d'entre eux n'avaient pas accès à l'usine. C'est-à-dire que là, ce qui a changé avec la reprise, c'est que ils ont
les parents ont eu accès, mais les enfants.
Mmh. Quoi, l'anecdote que quoi le symbole qu'on peut toujours citer, c'est que c'est ça date pas d'aujourd'hui. La première émeute urbaine a lieu à Vénissieux en 79 et ensuite en 81. C'est le moment même où les enfants d'immigrés maghrébins de l'est lyonnais cherchent à entrer sur le marché du travail, et pour des raisons de conjoncture économique, mais aussi peut-être pour des raisons de discrimination, ils n'y arrivent pas. Et on pourrait dire que ça fait des années et des années qu'on voit ce processus là exister. Tous les professeurs qui font les chefs de travaux qui essaient de trouver des stages à leurs élèves, les gens qui sont dans les missions locales, dans les ANPE, qui essaient de placer les enfants d'immigrés, ont du mal. Alors bien évidemment, c'est pas dit parce que c'est interdit par la loi, mais de fait, on s'aperçoit que ça existe objectivement. Alors il faudrait pouvoir mesurer ça statistiquement, on n'arrive pas à le faire parce que on n'a pas des statistiques par origine nationale encore en France, mais de fait est que la dernière enquête qui le montre très bien, c'est une enquête de sociologue de Nice, Primon et Friquet, qui montre très bien, à partir d'une enquête statistique, que les enfants d'immigrés qui ont des diplômes Bac plus 2, Bac plus 4, ont du travail, mais mettent beaucoup plus de temps que les autres à trouver du travail. Donc il y a déjà, ne serait-ce qu'au niveau des diplômes, ceux qui sont diplômés, bac plus 2, bac plus 4, il y a déjà une discrimination qui joue là. On peut supposer, à fortiori, que ces discriminations-là, elles jouent aussi pour ceux qui ont moins de diplômes. Donc c'est une réalité sociale. Ce problème, c'est que là aussi, c'est une réalité sociale qu'on ne veut pas voir. Parce que effectivement, il y a, bien sûr, il y a des conflits politiques autour de ça, et que je veux dire, ça mérite des luttes, et c'est pas encore fait pour l'instant.
Esclavage.
Nous, on n'est pas des sauvages. On a envie de travailler. Qu'ils nous donnent du travail, on travaille. C'est juste ça. Mais le fait de travailler et puis de virer les gens comme ça, franchement, ça n'a pas de sens. C'est l'esclavage moderne.
Samba et Mamadou, deux jeunes garçons dont les parents sont d'origine africaine. On oublierait presque en écoutant Jamel, et maintenant le moment qu'on va passer avec Samba et Mamadou, l'époque où l'industrie française réclamait aller chercher sur place ses main-d'œuvre. Il nous est arrivé, vous vous souvenez peut-être, au Mali, dans le Sahel, de rencontrer un homme. Comme ça, c'était une surprise sur une route. On s'était arrêté, sur une piste. C'était un gars qui avait bossé chez Renault. On a parlé de Billancourt. On a parlé de la maison de la radio alors qu'on était au Sahel. Il y a eu cette histoire commune. C'est une histoire commune. Et c'était une fierté. Parfois, pas toujours, mais pour les uns et pour les autres. Et aujourd'hui, pour Samba et Mamadou, cette fierté, comme celle de Christian, qu'on entendait tout à l'heure, qui disait à quel point Renault, c'était la fierté sociale, aussi les acquis. On a obtenu des acquis, disait Christian. Et cet Africain, du rencontré au Mali, il avait participé, lui aussi, à ces luttes-là. Aujourd'hui, ce monde-là a changé, lui aussi. Les mamans.
Demingar doy leedindi nenon jibina en taydo ko babira mabbe ne liggoyrono babira mabbe ngari do gilako boy amin ngari doy leedi ha on jibina babira mabbe ne liggorono ngurna mumen aduna mumen dole mumen fo koyrono mbadi.
Elle a dit quand elles sont venues ici, c'était mon père qui travaillait à Renault toute sa vie, il a travaillé à Renault toute sa vie. Donc nous aussi, quand on est venu au monde, on a trouvé que notre père travaillait à Renault. Donc quand Renault nous a appelés, elles étaient trop fières de nous. Donc hélas, ça s'est terminé comme ça. Donc elles ne nous attendaient pas à ça.
Vous aussi, votre mari travaillait chez Renault?
Oui, c'est Renault, c'est tout, c'est pareil. C'est nous, c'est le même mari.
Ah, vous êtes la deuxième femme?
Oui, moi c'est deuxième épouse.
Votre mari, il est venu pour travailler ici,
oui,
à Renault?
Pour travailler ici. Nous aussi, on voulait les enfants travaillent comme le père de lui. Mais le Renault, ça ne vole pas prenez. Nous aussi, on n'est pas content comme ça. Même les enfants n'est pas content comme ça.
Samba, toi, tu étais intérimaire, tu travaillais chez Renault, et aujourd'hui, tu as été remercié.
Je travaille à Renault depuis 7 ou 6 mois. J'ai été remercié d'un seul coup. Je savais pas pourquoi. Peut-être c'est leur politique ou c'est une façon de prendre des gens comme des bouche-trous. Ça m'a fait très mal parce que pour mon travail, même mes collègues disaient que je faisais mon boulot comme il le faut, je travaillais comme il le faut. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a fait très mal parce que je peux en témoigner. Mon père, il a travaillé pendant des années jusqu'à son retraite. Il ne s'est jamais absenté.
Ton père, ton propre père,
ouais,
travaillait chez Renault.
Ouais. Il a travaillé pendant toute sa vie là-bas à Renault. Il a travaillé toute sa vie à Renault. Aujourd'hui, il est retraité. Nous, on n'est pas des sauvages. On a envie de travailler. Qu'ils nous donnent du travail, on travaille. C'est juste ça. Mais le fait de travailler et puis de virer les gens comme ça, franchement, ça n'a pas de sens. C'est l'esclavage moderne. Moi, je le dis comme ça, c'est l'esclavage moderne.
Qu'est-ce que tu faisais, toi, comme type de travail à la chaîne?
Moi, je faisais le ponçage.
Le ponçage?
Ouais. Et je dis, alhamdoulilah, le ponçage, c'était pas trop dur. Mais j'en ai eu des cousins qui ont bavé à la chaîne. Qui ont vraiment bavé. Et le travail qu'on nous donne là-bas, que ce soit un fils d'immigré, d'origine maghrébin ou d'origine africain, tu n'as pas un bon poste qu'on te donne. Tu es toujours à la chaîne, la chaîne, la chaîne. Il n'y a que ça qu'on a là-bas. Comme mon père, comme mes oncles qui ont continué à travailler là-bas, ils ont vécu là-bas et puis c'est pour cela on dit, chez nous, on dit, dès que tu travailles à la chaîne, si tu pars en retraite, il n'y a que deux ans, après deux ans, tu vas mourir. C'est ça.
Et ton père, s'il est parti là au Sénégal, c'est parce que justement il a peur de mourir?
Exact, il a peur de mourir ici, donc il part et quand il meurt, il veut mourir en Afrique.
Quel âge tu as toi, Samba?
27 ans.
Mon papa, c'est le plus gentil du monde. Le matin, c'est lui qui m'amène à l'école. Avec sa Renault 25, elle est belle. On se croirait dans un carrosse. Papa, c'est le cocher et moi, je suis Cendrillon. Plus vite coché, moins vite coché.
Mamadou, toi, t'es le frère de Samba.
Oui.
Et c'est la génération en dessous de ça. Quel âge tu as?
Bah moi, j'ai 21 ans.
Et toi aussi, t'étais intérimaire et tu travaillais chez Renault.
Bah oui, j'ai travaillé là-bas 13 mois.
À la chaîne?
Ouais, à la chaîne. Au montage, quoi. Moi, comment dire, je vissais les fauteuils, quoi. Les fauteuils avant. J'étais sous la voiture, quoi.
Travail de merde.
Voilà quoi, c'était du travail d'esclave quoi. On travaillait, mais voilà quoi.
Pourtant, le papa aussi travaillait là. Bon là, il est en voyage au Sénégal, mais lui, il devait être fier quand même que ses enfants travaillent aussi chez Renault.
Avec toutes les familles africaines qui sont ici au Havre, quand on disait que ton fils, il travaille à Renault, ils sont contents, les parents sont contents. Ils se sentent vraiment bien. Ils ne savent pas ce qu'il y a là-bas à Renault. Mais dès qu'on disait que mon fils est déjà rentré à Renault, il travaille, la maman elle est contente, le papa il est fier. Parce que eux, quand ils sont venus ici, les parents, ils savaient, ils connaissaient que le Renault, ils travaillaient avec Renault, ils ont travaillé jusqu'à ils ont pris leur retraite, ils étaient bien, ils n'ont pas eu de problème. Tandis que nous maintenant, on a des gros problèmes pour travailler à Renault, pour rentrer dans Renault.
C'est la jeunesse quoi. Par exemple, comment dire, les gens de couleur ou les gens, comment dire, originaires de... En dehors de la France, quoi. C'est-à-dire que, comment dire, maghrébin, tout ça, quoi. Bah, comment dire, c'est rare qu'on voit ça embauché, quoi. Toutes les semaines, ils envoient des sortes de journaux. On voit la tête des gens, les nouveaux embauchés, quoi. Et quand on regarde la tête et les noms, quand même, on voit que, comment dire, il y a une différence, comment dire. On voit qu'il y a vraiment une différence.
La plupart de ceux qui ont embauché sont des Français. Des Français, des vrais Français, hein. C'est pas d'origine africaine ou d'origine maghrébine, non. Ce sont des Français blancs. Des blancs français. Les Français blancs, ils n'ont pas appris plus que nous. Ils sont rentrés à Renault parce qu'ils avaient un CAP. Et nous, on est venus parce qu'on avait des CAP. S'il y a des concours à faire, nous, on devrait tenter notre chance pour être embauchés comme les jeunes Français qui ont été embauchés. Mais non, ils ne nous donnent pas le choix. Et tu parles avec des certaines gens qui sont embauchés là-bas, des jeunes, on les appelle des jeunes embauchés. Ils te disent, vous les intermerdes.
Les intermerdes?
Voilà. Ils nous appellent comme ça. C'est leur façon de parler.
Ils vous appellent les intermerdes?
Voilà. À leur façon de parler, ils nous appellent des intermerdes.
Adéco, numéro 1 du travail temporaire.
Ça ne change pas le monde, mais ça y contribue.
Je suis pas né ici, non. Je suis né au Sénégal.
T'avais quel âge quand t'es arrivé?
J'avais 3 ans.
L'essentiel de ta vie, est... voilà, c'est passé là. Hein.
C'est la moi, l'essentiel de ma vie, c'est passé ici en France, quoi.
Et toi, tu es arrivé ici quand?
Moi, j'y arrivé pas très longtemps. 7 ou 8 ans.
Parce que là, c'est une grande famille, hein, ici, ouais, qui est dans l'appartement, là. Hein, vous êtes combien?
Ça va, on est 16.
16?
Bon, on est bien 16, ouais.
Bon, il y a le papa, il y a deux femmes.
Ouais, il y a papa et puis le plus grand, c'est moi, c'est lui qui me suit, il y a une autre et puis avec deux mamans.
L'appart, c'est en 10 pièces. ces deux apparts, comment dire,
qui a été rassemblé. Toi, Samba, toi, tu voudrais être embauché?
À Renault, on m'a jamais parlé de l'embauche. On m'a jamais parlé de l'embauche parce que je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un qui va me parler de l'embauche. Parce que si vraiment il y avait, parmi nos parents qui étaient là-bas, si vraiment il y avait des cadres, là, je peux dire que les jeunes Africains ou les jeunes d'origine africaine, ils peuvent rêver d'être embauchés à Renault. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas un de nos parents qui est bien placé à Renault. Tous sont des esclaves et leurs enfants y passent. On suit. Eux, quand même, d'accord. Ils peuvent être des esclaves, ils peuvent faire le travail de l'esclavage, d'accord. Parce qu'ils n'étaient pas instruits. Ils n'avaient pas vraiment. Ils sont venus pour travailler manuel. C'est avec leur force, d'accord. Mais nous, attends, nous, on a appris, on a fait l'école comme leurs enfants, comme vos enfants. Donc pourquoi pas eux, si vos enfants ont été embauchés, si les jeunes blancs ont été embauchés, pourquoi pas nous, on devrait être embauchés? Pourquoi pas? Liberté, égalité, fraternité. Je crois que c'est ça. Donc il faut respecter ça. Quand on dit quelque chose, il faut le respecter.
S'ils disent que c'est l'égalité, ça doit être la légalité dans tous les sens. C'est pas que, l'égalité envers qu'eux, quoi. Ça veut que nous, voilà, quoi, nous servons de,
bouche.
Voilà, comme mon frère dirait, on est des sortes de boucherous, quoi. On est là, quand on sert, on nous appelle, et puis quand on n'a plus besoin de nous, on nous jette, quoi.
Tu te rappelles justement comment on t'a acheté, comment ça s'est passé?
On m'a pas dit sur le coup, hein. On a attendu le dernier jour.
Dernier jour, t'as appris?
Le dernier jour, le chef, il est venu. Il est venu nous voir, moi et un collègue qui était à côté de moi, un intérimaire comme moi. Et il nous a dit, les gars, aujourd'hui, c'est votre dernier jour. Hein. Il y a plusieurs intérimaires qui vont partir, quoi. Comme j'étais de nuit, on est tous partis, quoi. Il y en a beaucoup qui sont partis, quoi. Puis il nous a dit, les gars, quand on aurait besoin de vous, on vous rappellerait, quoi. Mais c'est leur publicité, ça. C'est ce qui sort tous les jours, quoi. Quand ils voient quelqu'un, ils sortent ça tous les intérimaires. Mais ça veut pas dire qu'ils vont te rappeler, hein. Ils disent ça pour mieux faire passer la pilule. Et ouais.
C'était le deuxième volet de la série Les Ouvriers, ces oubliés, un reportage de Thierry Char. Merci à Stéphane Beau et Michel Pialou, retour sur la condition ouvrière, enquête aux usines Peugeot chez Fayard. Et merci à Mamadou, Samba et Jamel.
Ma che immagino un Dio, si va a vintare.
vont la faire écrébat. Y'a même ce mes démons n'a pas ni très comparé. Va saber pas humour, mais qu'un rodia décidé. Les passe carrière, pinga la préfecture. L'Ougaz est singa, perda, entre moi des fins. La enca des cannes, que c'est vendu par car. L'Ougaz est singa, sa chape, la loupaïs. Et l'usine, c'est truc, nous avec.
Information du 17 au 23 mars aura lieu le Festival international du film contre l'exclusion et pour la tolérance au cinéma L'Escurial à Paris dans le 13e. Beaucoup de films, de rencontres et de rencontres avec les réalisateurs, les comédiens, des personnalités du monde associatif ou universitaire. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site www.fifet.org ou téléphoner au 01 45 44 72 81. La technique aujourd'hui, Patrick Henry et Benjamin de la Gâtinée, à la réalisation Antoine Chao, assistant Coy Nguyen, Anne de Jafferi et Christophe Humbert. Le répondeur de là-bas, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et puis pour laisser vos messages internet, l'email c'est daniel.mermet@radiofrance.com.